Un beau-frère, troisième partie, chapitre 6. Pour la plupart des villes de province, les courses de chevaux sont nées du caprice ou de la mode. On les organise parce que cela pose une ville, on y va parce que c'est le genre. À Condé-le-Châtel, elles sont une affaire sérieuse. Tout le monde dans le pays, depuis le propriétaire d'herbage jusqu'au petit marchand ou au simple faucheur, vit de l'élevage des chevaux. Qui gagnera? Longtemps à l'avance, les chances des concurrents sont discutées dans les cabarets, les jours de foire ou de marché, en buvant des glorias d'eau-de-vie de cidre. Ce n'est pas une vaine question de curiosité, car si le vainqueur est un cheval élevé dans le pays, la conséquence naturelle de cette victoire sera l'accroissement de valeur de jeunes poulains du même sang. Les prix de vente augmenteront à la prochaine visite des entraîneurs parisiens. Les propriétaires, qui dès le mois de mai s'en sont allés à la campagne surveiller leurs herbages, rentrent en ville pour cette époque. Durant quelques jours, les vieilles maisons du Martrois et de la Courtine reprennent un air hospitalier. Les visites, les dîners, même les baptêmes et les mariages, tout se règle à l'avance pour le moment des courses. Et comme en même temps se tient une foire importante, la ville devient trop petite. L'étranger qui arrive se croit tombé en plein pays de Cocagne, au jour solennel de la grande mangeaille. Il avait été décidé que Cyprienne et Éloïe verraient les courses de dedans la calèche, et que pour cela on partirait de bonne heure afin de prendre une place favorable sur l'hippodrome. Éloïe n'avait été pour rien dans cette détermination, et s'il avait osé, il eût même déclaré qu'on arriverait toujours assez tôt, car il avait pour ce genre d'amusement, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs, le plus profond mépris. Mais quand la calèche tourna devant le perron, il fit contre fortune bon cœur, jeta gaiement sa serviette sur la table et présenta la main à Cyprienne. Les chevaux partirent, défilant en grand train dans les chemins creux tapissés d'herbe. Ils avaient des nœuds de rubans de rose à la tête et ils en paraissaient fiers. Il faisait un temps splendide et l'humidité qui s'élevait des prairies et des eaux tempérait l'ardeur du soleil. Cyprienne avait revêtu une toilette de course, une robe courte de foulard couleur poussière et un petit chapeau rond ombragé de feuilles de maïs. C'était de la plus grande simplicité, mais aussi de la plus douce harmonie. Et le contraste de ses nuances pâles avec ses cheveux noirs, ses yeux brillants et ses lèvres vermeilles produisait un effet délicieux. Mieux que des paroles, les regards attendris que Sénéry fixait longuement sur elle disaient combien il la trouvait charmante et comme il était fier d'elle. Quand ils approchèrent de la ville, les voitures sur la route devinrent plus nombreuses. Au carrefour, devant les barrières, ils étaient souvent obligés d'arrêter. C'était un boc qui sortait d'une cour. Les dames en bonnet à ruban, la chaîne d'or par-dessus le châle, occupaient toute la place, et le mari, assis de côté, conduisait du bout des bras, gêné aux entournures par ses habits du dimanche. Pendant quelques minutes, on luttait de vitesse, mais les pur-sangs de Sénéry, tranquilles dans leur allure, tandis que les percherons ou les normands étaient hors de train, ne tardaient pas à dépasser et à laisser loin derrière les bocs et les carrioles. « Adieu, monsieur Sénéry !» criaient les paysans. « Retenez-nous une bonne place !» Et la calèche soulevait des tourbillons de poussière qui allaient s'abattre sur le dos des bœufs massés contre les barrières. Dérangés par le bruit, ils restaient là à regarder, comme s'ils voulaient savoir ce que signifiait ce défilé qui les troublait dans leur engourdissement. Dans le faubourg, une triple rangée de carrioles dételées et enchevêtrées les unes dans les autres était alignée sur les côtés de la route. Des quartiers de viande, des volailles, des cochons de lait encombraient les devantures des auberges. Et dans les cuisines, d'où sortait l'odeur âcre des roux, on voyait les marmitons s'essuyer le front sur la manche de leur veste blanche. Ils traversèrent la ville dans toute sa longueur. Tandis que les paysans, hommes et femmes, saluaient Sénéry et Cyprienne d'un même bonjour affectueux, les bourgeoises prenaient un air pincé, et quand les maris soulevaient leur chapeau, elles détournaient la tête ou baissaient les yeux.
« Tu n'aurais pas dû saluer ?»«
Parce que quand on est avec sa femme, on ne salue pas un monsieur qui se promène avec sa maîtresse. »«
Elle sera sa femme demain. »«
Si elle n'était pas jolie, tu n'aurais pas salué. »«
Jolie ? Je ne vois pas ce que vous lui trouvez de joli. »
Au pont, il fallut, de peur d'accident, ralentir l'allure. Les paysans normands n'ont pas l'habitude de se ranger, et ils ne s'y décident que lorsqu'ils ont la tête des chevaux sur l'épaule. Alors ils se détournent lentement, prêts à discuter ou à gouailler. Au bout du pont, dans la prairie, commençait le champ de course, avec ses mâts et ses drapeaux, blanc d'un côté, rouge de l'autre, qui dessinait la piste.
« Voilà notre hippodrome, » dit Sénéry, étendant la main.
« Je ne connais que celui de Caen, qui le vaille comme situation. Tu vois que du boulevard qui borde la rivière et des terrasses des jardins, on peut, sans sortir de la ville, suivre les courses. » Il a encore un autre avantage, c'est que presque tous les obstacles sont naturels. Tiens, voilà la rivière.
Vous ne sautez pas ça?
Mais si, elle n'a que 4 mètres de large, et celle de Vincennes a 4,50 mètres. Il est vrai que celle-ci a cela de particulièrement difficile, au moins pour les chevaux parisiens habitués aux obstacles factices. Que les bords, au lieu d'être solides et élastiques, sont défoncés tous les jours par les bœufs quand ils viennent boire. Aussi, j'espère bien que tantôt il n'y aura que le cheval de Friardel, le mien et les steeplechasers irlandais qui sauront se dépêtrer dans cette bourbe. La foule commençait à déboucher de tous côtés sur la pelouse. Il en sortait de derrière les buissons, de dedans les chemins creux, d'entre les haies. Les filles de la campagne marchaient, se tenant par la main de peur de se perdre. Et il y avait des garçons qui, le cigare d'un sou aux lèvres et le chapeau sur l'oreille, tournaient autour d'elles avec des airs de dindon qui fait la roue. Quelques voitures seulement étaient arrivées, ils purent choisir leur place, en face de la tribune du juge. De là, l'œil embrassait la piste entière, la prairie où les bonnets blancs, les fichus rouges et les jupes bariolées ondoyant dans l'herbe, les jardins de la ville déjà noirs de monde, et au loin, par-dessus les toits, l'horizon de verdure. Sénéry voulut voir son cheval, parti du camp Héroux, dès le matin, et Éloï resta seul avec Cyprienne.
« Comment donc ? » demanda celui-ci. « N'usez-vous pas de l'influence si heureuse que vous avez prise sur lui pour le faire renoncer à ses amusements dangereux ?»«
Il m'a semblé que si je voulais garder un peu de cette influence dont vous parlez, il ne fallait pas le contrarier dans tous ses goûts. Il y a quelques années, il montait le premier cheval venu dans toutes les courses. Aujourd'hui, il ne monte plus que ses chevaux, ceux qu'il connaît, et dont il est sûr, c'est déjà beaucoup.
Vous avez eu raison,
et c'est agir en femme sage. Sénéry est très doux, très bon, mais il a aussi une volonté de faire. Quand il veut une chose, le monde entier ne le ferait pas céder. Au reste, il eût été mal à moi d'abuser de mon influence pour le faire renoncer à ses courses, qui chez lui sont une passion. Elles me font mourir de peur, mais je tâche de ne pas le montrer. » Les voitures arrivaient à la file. Landau, Dorset, Victoria, Brisca, tous les genres étaient représentés.
et à côté des calèches neuves, commandées à Paris pour se mettre à la mode et éclipser ses voisins, il y avait encore des berlingots à rideaux de cuir datant de la Restauration. Et ce n'étaient pas les chevaux les moins beaux qui traînaient ces vieilles guimbardes. La voiture pouvait être grotesque, mais l'attelage montrait que si son propriétaire ne la remplaçait pas pour une neuve, ce n'était pas la faute de la pauvreté. Il se fit un mouvement dans la foule. Une de ces grandes voitures anglaises, qu'on appelle « mail coach », entrait sur l'hippodrome, conduite en « four in hands ». Les sièges supérieurs étaient occupés par des hommes. Dans l'intérieur, on apercevait deux femmes seules. « Voici Monsieur Friardel, » dit Cyprienne. « La sœur de Sénéry est la dame blonde et pâle qui regarde de notre côté. L'autre dame est Mistress Foster. » Toutes les places étant prises le long de la corde, le mail coach vint se ranger au second plan, juste contre la voiture de Sénéry. Les yeux de Cyprienne et de Madame Friardel se rencontrèrent. Celle-ci détourna la tête. Mais dans son geste, il y avait plus d'embarras que de dédain. Friardel, tout à ses chevaux qu'il conduisait lui-même, n'avait pas vu dans quel voisinage il se plaçait. Lorsqu'il s'en aperçut, il était trop tard pour aller plus loin. La présence d'Éloïse aux côtés de Cyprienne parut grandement le surprendre, et il resta quelques secondes à le regarder, le fouet à la main, penché en avant. Pourquoi retrouvait-il là ce Parisien? Que venait-il faire? Que voulait-il? Quelles étaient ses relations avec Sénéry ou avec Cyprienne? Toutes ces questions se pressaient devant sa curiosité inquiète. Près de lui, sur le siège, se tenait Dipréau, en culotte de peau et en bottes molles. En reconnaissant Éloïse, il descendit vivement du mail coach et vint à la calèche. Puis, après quelques mots de banale politesse, il demanda à Cyprienne la permission d'emmener l'avoué pour quelques minutes. « Eh bien, » dit-il lorsqu'ils se furent éloignés de manière à pouvoir parler librement sans craindre les oreilles indiscrètes. « Sénéry. Sénéry est aussi sensé que toi et moi. Ce Friardel est un parfait gredin. Tu vois que je n'avais pas tort. Pour la gredinerie, assurément, mais pour la finesse, je crois que tu dois en rabattre. Il faudrait qu'il fût fou pour songer à intenter un procès en interdiction. Et je suis si parfaitement sûr qu'il ne l'osera pas que je n'ai pas parlé de mes soupçons à Sénéry. Il est déjà bien assez monté sans l'exciter encore. Je ne suis pas si tranquille que toi. Il est vrai que j'ai causé avec Friardel.
Comment cela?
En arrivant hier soir, ma première parole a été pour demander des nouvelles de Sénéry. Sais-tu ce qu'il m'a répondu? Mauvaise. Le mal augmente tous les jours. Dans un accès, il a battu un pauvre diable et l'a laissé sur place à moitié assommé. Il faudrait tâcher de savoir ce qu'il y a de vrai là-dedans.
Le fait lui-même, qui est tout aussi vrai que celui des hommes attelés à des tombereaux. Seulement, le pauvre diable, à moitié tué, était un voleur d'arbres, à qui Sénéry a donné une bonne correction. Et les hommes attelés à des tombereaux concouraient à des expériences sur l'attraction. Expériences très curieuses, qui, au lieu de classer Sénéry dans les fous, lui vaudront peut-être un jour une réputation.
Alors le Friardel est l'homme que je te disais. Très dangereux, et à la façon dont il tire parti des moindres choses, je vois que j'ai eu tort de me laisser si facilement rassurer. D'après ce que tu me dis, il ne serait pas impossible qu'un jour ou l'autre il demandât l'interdiction.
Et qu'en résulterait-il?
L'avoué ne répondit pas. En allant devant eux au hasard, ils étaient arrivés à un bouquet d'ormes sous l'ombrage desquels on promenait les chevaux. Le dos appuyé contre un arbre, on apercevait Sénéry qui examinait attentivement ce défilé. La tête basse et tenues en main par des grooms, les chevaux marchaient d'un grand pas nonchalant et régulier qui ressemble au mouvement d'une mécanique. De temps en temps, il y en avait qui redressaient leurs longs cous, et de leurs yeux intelligents et fiers, ils regardaient leurs concurrents avec un hennissement. Autour d'eux, on faisait cercle en les discutant. Satan, vainqueur d'une vingtaine de courses importantes, était entouré de fanatiques. Nélombeau, presque inconnu, était délaissé ou critiqué, car sur ce public d'éleveurs, le prestige de la victoire avait presque autant d'influence que sur les amateurs platoniques du crottin qui encombrent les hippodromes parisiens. « C'est donc toi qui viens exprès de Paris pour me battre ?» dit Sénéry, tendant la main à Dipro. « Je n'ai pas pu refuser. » « Je ne t'en veux pas. Au contraire, je suis content de cette rencontre qui me rappelle notre camaraderie d'autrefois. « Es-tu si certain que cela d'être battu ? Ton cheval a l'air bien. » « Dame, je lui crois une chance, mais le tien est favori et l'on parie 10-1 contre le mien. » « À propos, j'ai prévenu ton beau-frère que je dînais ce soir chez toi. Il s'est fâché, mais j'ai tenu bon. » Ta sœur m'a chargée de ses amitiés. Il m'a semblé qu'elle me savait gré de préférer ta maison à la sienne. Pauvre femme, elle n'est pas heureuse. Est-ce que Madame Forster règne toujours ? Plus que jamais, sans compter les autres. La cloche sonna pour la première course. C'était seulement dans la seconde que Nélombo devait courir, et Louis et Sénéry retournèrent près de Cyprienne. L'hippodrome s'était rempli. Autour des pipes de gros cidre, en chantier sur les voitures qui les avaient apportées, on s'entassait déjà. On tirait à la champlure dans des tasses de faïence blanche, et en passant près des charrettes, Louis remarqua avec curiosité que le teint roux des buveurs était exactement de la même couleur que le cidre qu'ils avalaient. C'était à croire que, sans élaboration, ce cidre circulait dans leurs veines engorgées. Avec cela, l'air solide et placide. Sous une tente en toile, qui tant bien que mal simulait une tribune, se tenaient, dans des poses de figures de cire, les autorités du pays. Au centre, le député, membre du cercle de l'Arcade, dévoué à la Société de Saint-Vincent de Paul, à genoux devant le clergé. On disait qu'il n'aurait pas l'appui du gouvernement lors des prochaines élections, mais comme il avait encore le pouvoir de faire donner aux courses un prix de 5 000 francs pris au budget de l'administration des haras, il avait néanmoins droit à la place d'honneur. Le jour où le préfet se serait franchement prononcé, on verrait si on devait la lui conserver ou le reléguer dans sa voiture. Derrière lui, le sous-préfet, le président du tribunal, le maire. De chaque côté de cette loge d'honneur en guirlandais de drapeaux, l'obscure bourgeoisie pêle-mêle, les avocats, les médecins, les boutiquiers. Dans les voitures, au contraire, l'aristocratie de la naissance ou de l'argent. Suivant l'usage anglais, beaucoup de coffres avaient été remplis de provisions de bouche, et déjà les bouchons argentés du champagne sautaient en l'air, au grand ébahissement des paysans, qui faisaient cercle et se donnaient des coups de coude. « Quelle est donc cette Mistress Forster dont j'ai entendu le nom déjà plusieurs fois ?» dit Éloï, s'asseyant dans la calèche aux côtés de Cyprienne, tandis que Sénéry se plaçait en face. « La femme du gentleman qui doit monter Satan. » répondit Cyprienne. C'est-à-dire la maîtresse de Friardel, interrompit Sénéry. Oh, Sénéry, fit Cyprienne. Il n'est pas besoin de faire tant de mystère d'une chose qui est notoire. D'ailleurs, il est bon que notre ami connaisse, sous tous ses côtés, l'esprit pratique de mon aimable beau-frère. Forster, mon cher, est un avocat anglais qui, par amour des chevaux, a abandonné les cours de Chancery Lane et de Lincoln's Inn Fields et est devenu une espèce de jockey. Il faut que tu saches que dans les courses, il y a deux classes de cavaliers. Les jockeys que nous appelons des professionnels et les gentlemen, comme Dipro ou comme moi, qui montent pour leur plaisir. Forster, par son éducation et par ses relations, n'est pas un professionnel. Mais par son habileté, c'en est un. Et aussi par le prix dont il se fait payer.
S'il se fait payer, quel avantage trouve-t-on à réclamer ses services? Il me semble qu'un jockey de profession, même médiocre, doit être supérieur au gentleman le plus habile.
Parfaitement raisonné, en thèse générale. Seulement, dans l'espèce, ton axiome n'est pas tout à fait vrai. Attendu que Forster est l'égal du meilleur jockey anglais. De plus, comme il est accepté et reconnu pour gentleman, il jouit en cette qualité de l'énorme avantage de recevoir une décharge de 6 livres.
Je n'y suis plus du tout.
2 mots d'explication vont te faire comprendre. L'expérience a démontré qu'une once de plus ajoutée au poids que porte un cheval se traduit par 1 mètre de retard sur 1000 mètres. Ceci admis, tu dois voir quel avantage il y a pour un cheval à recevoir une diminution du poids de 6 livres. Ainsi, aujourd'hui, Satan, s'il était monté par un jockey de profession, porterait 78 kilogrammes. Monté par Foster, il n'en portera que 75. C'est donc exactement comme s'il partait avec une avance de 400 à 500 mètres.
Je comprends.
Tu comprends aussi alors qu'il y a un réel intérêt pour un propriétaire à faire monter ses chevaux par un homme tel que Forster. Notre Friardel l'a compris avant nous, et il s'est attaché Forster. Il le loge chez lui, il le nourrit, il le défraie de tout, et il lui abandonne 10% sur tous les prix qu'il gagne. L'année dernière, ses prix s'étant élevés à 200 000 francs, la part de Forster a été de 20 000. Pour lui, c'est donc une excellente affaire. Mais Friardel n'aime pas qu'on fasse de bonnes affaires à ses dépens, et il a tâché de rattraper quelque chose de ce qu'il donnait. Son moyen, très simple, a consisté à prendre Madame Forster pour maîtresse. S'il avait voulu en entretenir une à Condé, elle lui eût bien dépensé 20 000 francs. Forster, donc, ne lui coûte rien.
Et le mari? Et ta sœur?
Le mari, on suppose qu'il ne sait rien. Et cela est assez vraisemblable, étant donné son caractère.
Quant à ma sœur, c'est un mouton. Regarde donc si la résignation n'est pas imprimée sur sa figure pâle.
Nous autres, Normands, nous nous divisons en 2 classes. L'une composée de ceux qui défendent leurs droits jusqu'à la mort par tous les moyens, c'est celle-là qui, par sa ténacité, a formé le type national. L'autre, composée de ceux qui, pour avoir la paix et la tranquillité, cèdent tout ce qu'on leur demande. C'est à celle-là qu'appartient ma sœur. Elle n'a d'énergie que pour rendre service. Et jusqu'à un certain point, il est heureux qu'il en soit ainsi. Si au lieu de céder, elle eût voulu lutter et se défendre, elle eût été brisée. On ne résiste pas à Friardel.
Pourquoi diable l'a-t-elle épousée?
Parce qu'il l'a voulu, et que pour lui, chose voulue est chose obtenue. Sa vie, sa position, sa fortune, tout chez lui est fait de volonté. Friardel a débuté dans le monde avec 20 000 francs à peine, non de rente, mais de capital. Pour l'aider, une mère, une sœur à soutenir. Il a commencé par acheter 2 mauvais chevaux de steeplechase et il s'est mis à courir la province, ni plus ni moins qu'un misérable directeur de cirque ambulant. Ce n'était pas au grand prix qu'il s'attaquait, mais aux petits, à ceux qui, par leur médiocrité, n'attirent pas de concurrents. Il montait ses chevaux lui-même pour économiser un jockey. C'est alors qu'il fallait le voir. Généralement, il arrivait 2 ou 3 jours avant les courses pour avoir le temps de visiter les organisateurs. La veille, il se faisait montrer l'hippodrome. À ce moment, Il avait déjà su se mettre bien avec les commissaires, leurs femmes, leurs enfants, leurs maîtresses. Il trouvait tout charmant, ravissant. Puis, au milieu d'un flot de compliments et de cajoleries, il glissait une petite observation. « Cette haie était un peu haute, la rivière n'était pas assez large. » Et presque toujours, il arrivait à faire disposer les obstacles de telle sorte qu'ils fussent plus faciles pour ses chevaux et plus difficiles pour ceux de ses concurrents. Car chaque cheval a des aptitudes propres, et tel qui saute bien la hauteur saute mal la largeur. La première année, il eut du mal à faire ses frais. L'année suivante, ayant gagné une 20 000 francs, il acheta de meilleurs chevaux. Et ainsi, toujours marchant en avant, sans reculer jamais, surtout ne dépensant pas un sou inutilement ou pour son plaisir, il en est arrivé à sortir de la misère et à réaliser des bénéfices annuels de 150 à 200 000 francs. Tous les métiers lui ont été bons. Il a acheté des chevaux en Angleterre pour les revendre en France, il a fait le commerce des bijoux et des pierres précieuses. C'est le type du véritable Normand gagnant toujours. C'est cette qualité, si qualité il y a, qui a séduit mon père. Si mon père n'est pas aussi âpre au gain que Friardel, il lui ressemble au moins par ce côté qu'il ne veut pas perdre. Le gendre, selon son cœur, était celui qui conserverait sûrement sa fortune en l'augmentant, et qui, se tenant dans une sphère modeste, ne l'éclipserait ni par son luxe, ni par une haute position. En voyant comment Friardel, qui était notre voisin, avait su organiser sa vie, il crut trouver en lui le gendre de ses rêves. Et bon gré, mal gré, sans écouter les plaintes de ma sœur, sans s'arrêter à mes observations, il fallut que la pauvre fille épousât ce gredin. Ajoute à cela que, par toutes sortes de séductions, de petits moyens, de sourires, d'hypocrisie, de finesse, de caresses, de bassesse, Friardel avait complètement dominé le bonhomme. Et tu comprendras comment ce mariage s'est fait. La domination dure toujours. Mon père, presque en enfance, n'écoute que son gendre et ne voit que par lui. Ma sœur et moi, nous ne sommes rien, moins que rien. Ma sœur, une poule mouillée, moi, un pauvre air. Cependant, 3 ou 4 gendarmes tâchaient de faire évacuer la piste, mais les paysans ne bougeaient point. Et pour les déranger, il fallait les pousser par les épaules. À chaque pas, ils se retournaient pour argumenter. Les tribunes, les voitures étaient complètement garnies. Les chevaux parurent. Il y eut une agitation dans la foule, et quand le drapeau rouge s'abaissa, un grand mugissement. C'était une course pour chevaux de 2100 montée par des jockeys français, c'est-à-dire un lever de rideau, une petite pièce avant la grande. Aussi le public, qui se piquait de connaissances hippiques, n'y prit-il pas grande attention. Mais le populaire, moins correct dans ses amusements, ne fut pas si difficile. À chaque obstacle que les chevaux franchissaient, on entendait les cris et les hurrahs de la foule. Et quand le vainqueur arriva au poteau, il fut salué par de formidables applaudissements, ni plus ni moins que si sa généalogie eût été régulière. « Allons au pesage, » dit Sénéry. « Reviendras-tu ? » demanda Cyprienne. « Je n'aurai pas le temps. » Et Louis vit qu'elle lui prenait la main et qu'elle la lui serrait avec un regard ému. « N'aie donc pas peur. »«
Je n'ai pas peur. C'est bonne chance que je te souhaite. »
Mais son visage était en contradiction avec ses paroles. Elle était extrêmement pâle et ses lèvres frémissaient. Dans l'enceinte du pesage, déjà on ne s'occupait plus que de la course qui allait avoir lieu. Un jeune gentleman, vêtu comme un palefrenier et marchant les jambes arquées, les talons en dehors, aborda Sénéry. « Voyons, cher ami, est-ce votre cheval qui va nous gagner ça ?»«
Si je ne lui croyais pas une chance, je ne le ferais pas partir. »
Je pense bien, mais une chance, ce n'est pas assez. Je ne vous cache pas que j'aurais besoin de gagner 1000 louis aujourd'hui.
Pariez, ne pariez pas, je ne peux pas vous dire autre chose, si ce n'est que le cheval est bien.
Vous savez, Seigneurie, que vous êtes l'homme le plus étonnant qu'on puisse voir. Friardel n'y met pas tant de coquetterie, il dit tout haut qu'il est sûr de gagner.
Avec quel cheval ?
Satan, parbleu !
Alors, prenez Satan.
C'est ce que j'ai fait, mais vous savez aussi bien que moi que Friardel est un malin, et j'ai peur, tandis qu'avec vous...
Moi, je ne suis donc pas un malin ?
Non, mon cher, non, et franchement, je vous en félicite.
Tous ceux qui ont assisté une fois aux courses du bois de Boulogne connaissent un immense champignon en paille sous lequel se réunissent 200 ou 300 individus qui, à en juger par leurs cris et leurs contorsions, paraissent tourmentés de la même maladie que les agents de change qui s'agitent et se démènent autour de la corbeille de la bourse. C'est le ring, ou, comme disent nos voisins, le magic wing, c'est-à-dire le cercle des parieurs. Cette honorable institution, qui rend tant de services aux fils de famille en les débarrassant de leur superflu, ne s'est point encore établie à Condé-le-Châtel. Les paris s'y concluent directement, bêtement, entre amis ou tout au moins entre gens de connaissance qui ont l'habitude provinciale de faire honneur à leurs engagements. À chaque pas, Seigneurie était arrêté. Mais à toutes les propositions, il faisait la même réponse.
« J'ai déjà 10 000 francs sur mon cheval. Je trouve que c'est assez. »
Friardel ne paraissait pas apporter la même modération dans ses paris. Il allait en sautillant de groupe en groupe et l'on voyait son crayon courir sur son carnet. Il était gai, souriant, caressant, et il donnait à chacun de longues poignées de main dans lesquelles il paraissait mettre tout son cœur. Les chevaux qui avaient couru étaient au milieu de l'enceinte, la tête basse, les flancs haletants, épuisés, morts. Autour d'eux, des hommes d'écurie s'occupaient à les racler avec un long couteau flexible. L'écume ruisselait sur leur peau et tombait à terre, mêlée au sang qui s'échappait des trous d'éperon et des petites veines crevées. Ceux qui allaient courir continuaient leur promenade circulaire d'un air indifférent, sans paraître comprendre que quelques minutes plus tard, ils seraient eux-mêmes dans ce triste état. Sous les ormes, un groupe de 5 ou 6 personnes attirait l'attention par l'importance qu'il se donnait. Les autorités de Condé-le-Châtel. Au centre, discourant le bras arrondi, le président du tribunal, bonhomme de la Fardouillère, que son nom seul faisait admirablement connaître. Bonhomme, cela était vrai. Mais l'orgueil et la vanité d'être de la Fardouillère, d'où il était, mais dont il n'était pas, gâtait cette qualité native. Près de lui, souriant, bon enfant, l'air vain et vide, le sous-préfet Albéric en gibouste, semblant avoir pour unique souci de plaire à tout le monde. Immobile, près d'eux, dans une attitude étudiée, une figure longue, osseuse et ascétique, en face de laquelle l'observateur le plus fin serait resté longtemps embarrassé, se demandant si c'était un cuistre de collège, un domestique d'évêque ou un ambitieux maladif, et qui, n'étant rien de tout cela, était tout simplement le procureur impérial Rabatel. Bien que ces 4 personnages fussent marqués chacun d'un cachet individuel qui sautait aux yeux, ils étaient effacés par un petit homme, le seul non décoré, qui tout de suite appelait le regard, et qui, par son apparence chétive, son dos voûté, ses mouvements rapides, son énergie fiévreuse, l'arrêtait, inquiet et perplexe. C'était le maire de Condé, Monsieur Gillet, un médecin célèbre par des expertises judiciaires qui, en 7 ans, avait envoyé 3 empoisonneurs à l'échafaud. Et Louis, qui n'écoutait les explications de Seigneurie que d'une oreille assez distraite,
s'arrêta devant ce groupe. Si un jour Friardel engageait son procès, ce seraient ces gens-là qui en connaîtraient. Cela avait pour lui un tout autre intérêt que ces chevaux maigres et que ce monde de sportsmen. Angibouste quitta le président et son groupe pour venir avec empressement au-devant de Sénéry. « Vous savez, cher ami, que je compte sur vous pour nous gagner ce prix, » dit-il en souriant. « Vous ou Friardel, Friardel ou vous, je ne sors pas de là. Il y va de l'honneur de mon arrondissement. »
« Eh bien, cher monsieur, comment allez-vous aujourd'hui ?» demanda Gillet en s'avançant.
« Ah, ça, docteur, vous m'effrayez en me demandant toujours des nouvelles de ma santé. Ai-je donc l'air mourant ?»«
Vous savez bien qu'on est malade de trop de santé, comme de pas assez, et que dès lors, l'air ne signifie pas grand-chose. »
Le président ne dit rien, mais il sembla à Louis qu'il examinait Sénéry d'une façon étrange et qu'il échangeait avec le procureur impérial des signes mystérieux. Une cloche qui sonna ne lui permit pas d'approfondir cette impression.
« Excusez-moi, dit Sénéry, il faut que j'aille me faire peser. »
Et il se dirigea vers un petit kiosque qui servait de vestiaire. Lorsqu'il en sortit, débarrassé de son pardessus, il apparut, la taille serrée dans une casaque de satin écarlate, coiffé d'une casquette de velours noir, botté, éperonné, prêt pour la course. Et Louis fut tellement surpris du changement qui s'était fait dans sa physionomie, 2 minutes auparavant calme et souriante, maintenant agitée et inquiète, qu'il ne put s'empêcher de lui demander ce qu'il avait. Sans répondre, Sénéry posa son doigt sur ses lèvres. Mais lorsque l'importante opération du pesage fut terminée, il l'emmena à l'écart.
« Tiens !» dit-il à mi-voix. « Lis ça !»
Et il lui donna un petit morceau de papier gris, plié et roulé de manière à n'être pas plus gros qu'une plume. Et Louis le déroula et lut, écrit au crayon dans un caractère d'écolier de 10 ans. « Vous pouvez parier contre Satan. Hier, il avait la queue nattée. »«
Tu ne comprends pas ?»«
Pas un mot. »« Vous pouvez parier contre Satan. Hier, il avait la queue nattée. » »«
Ce qui veut dire ?»«
Ce qui veut dire que Satan ne gagnera pas, attendu qu'il a été drogué et que hier, il était en médecine. » »«
D'où te vient cet avis ?»
D'un vieux valet d'écurie, autrefois chez mon père, maintenant chez Friardel. Il m'a glissé ce papier au moment où j'entrais dans le vestiaire.
Ce serait donc Friardel qui aurait lui-même drogué son cheval?
Assurément, et je vois clair dans son jeu. Il veut gagner avec l'une de miel, qui est à 10 contre 1, et il a fait parier contre Satan.
Mais c'est une volerie, ça!
Pour mieux la masquer, il s'est couvert avec 10 pros, dont la réputation est une garantie de loyauté.
Il faut prévenir 10 pros.
Telle a été ma première pensée. Elle était mauvaise. Si 10 pros refusaient de partir, maintenant qu'il est pesé, on l'accuserait d'avoir parié contre son cheval. Il serait déshonoré, car la tricherie de Friardel ne peut pas se prouver. Ce morceau de papier n'a aucune valeur. Si au contraire il partait, étant prévenu, il n'aurait peut-être pas tout son sang-froid pendant la course, ce qui est une question de vie ou de mort.
Un cheval peut-il courir dans l'état où est celui-ci?
C'est dangereux, mais Dipro aimera mieux s'exposer à la mort qu'au soupçon. Il faut donc ne rien dire en ce moment et le laisser monter, quoi qu'il puisse arriver. Tu vois de quoi Friardel est capable. Nélombo avait été scellé pendant que ces quelques mots s'échangeaient rapidement. Les autres chevaux étaient déjà sortis de l'enceinte du pesage pour se rendre sur la piste. Sénéry se mit en selle. « Va rejoindre Cyprienne, fais-la parler, tâche de l'étourdir, qu'elle ne pense pas trop à la course. » Et Louis n'eut que le temps de regagner la calèche. Les chevaux, après un court galop d'essai, s'étaient déjà rangés pour le départ devant les tribunes. Debout dans sa calèche, Cyprienne tenait sa lorgnette braquée sur Sénéry, qui était sorti le dernier. Calme en apparence, elle était agitée d'un petit tremblement nerveux qui trahissait son émotion intérieure. Entre le gant et la manchette, on voyait perler des gouttelettes de sueur. Cependant, elle gardait bonne contenance. Et Louis voulut lui raconter ce qui s'était passé et à quel danger dit préau était exposé. Mais elle ne le laissa pas aller loin.
« Oh, monsieur dit préau !» dit-elle avec l'égoïsme féroce de la passion.
Que lui importait, dit préau ? C'était Sénéry qu'elle regardait. C'était pour lui que son cœur battait à coups redoublés. Le drapeau rouge du starter s'abaissa. Les chevaux s'élancèrent, Satan en tête, Nélombo et Lune de Miel en queue, les autres en peloton au centre. Le premier obstacle était une haie de genêt. Les vieux chevaux, qui savaient qu'il fallait se ménager, la franchirent en brochant au travers, les jeunes en sautant bravement par-dessus. Il y eut un hourra dans la foule, puis, comme par enchantement, il se fit un silence de mort. Les chevaux allaient aborder, à portée des tribunes, un obstacle en terre de plus d'un mètre de haut sur 6 mètres de large, qu'on nomme la banquette irlandaise. Toutes les têtes, par un mouvement automatique, s'étaient tournées du même côté. Les chevaux arrivaient à fond de train, excités de la voix et de l'éperon par leurs cavaliers, qui, entraînés par dix préaux, chargeaient cette formidable masse de gazon comme s'ils s'élançaient à l'assaut. Le sol tremblait, les selles craquaient, le souffle haletant des chevaux s'échappait de leurs naseaux rouges en un formidable mugissement. Et Louis sentit la main de Cyprienne qui se posait sur son épaule et se crispait convulsivement. Puis la main se détendit. L'obstacle était heureusement franchi. Toujours en tête, avec 5 ou 6 longueurs d'avance, Satan. Et dans le tourbillon de poussière soulevé par les chevaux groupés, la casaque écarlate de Nélombo et la casaque blanche avec écharpe bleue de Lune de Miel. À la façon dont Satan galopait, il était évident qu'il voulait, par la puissance de son train, écraser ses adversaires et les semer sur le parcours les uns après les autres comme les grains d'un chapelet. C'est là une tactique dangereuse qui demande un cheval de premier ordre. Mais bien des fois, elle lui avait réussi, et rien ne pouvait faire supposer qu'elle ne lui réussirait pas encore. Il allait avec une telle énergie, il sautait avec une telle légèreté et une telle sûreté qu'il était impossible au public de deviner que cette noble bête était malade. Et même Louis se demandait si la vie donnée à Sénéry n'était pas un piège. D'abord, droite, la piste, en quittant les tribunes, décrit une courbe qui enserre un bouquet de bois. À la sortie de ce bois se présente la rivière. Ils ne restèrent pas 20 secondes derrière ce rideau. Tout à coup, une tache blanche sortit de la verdure, c'était Satan. Il avait progressivement augmenté son avance, et il s'écoula 2 ou 3 secondes avant que les autres concurrents apparussent derrière lui. Ils étaient au complet. Nélombo dernier, le nez à la croupe de Lune de Miel. La rivière devait changer cet ordre et réaliser ce que Sénéry avait prédit. Satan sauta bien, mais quand les chevaux qui suivaient arrivèrent sur ses bords détrempés, il se produisit une étrange confusion. 2 ou 3 colonnes d'eau jaillirent en l'air, et quand elles furent retombées, le public vit qu'il ne restait plus que 6 chevaux dans la course. Les autres barbotaient dans l'eau avec leurs cavaliers ou restaient enfoncés dans la vase. Et Louis, qui n'avait jamais suivi une course, était incapable de se reconnaître dans ce pêle-mêle, surtout à pareille distance. Mais au soupir de soulagement qui s'échappa de la poitrine de Cyprienne, il comprit que Nélombo avait passé. Le cheval, en effet, était toujours à la même place. Devant lui galopait Lune de Miel, les 2 chevaux irlandais, escamoteurs, et tout en tête, Satan. En arrivant la seconde fois devant la calèche, Sénéry fit de la tête un signe pour dire que tout allait bien, car ses deux bras étaient occupés à retenir son cheval qui tirait tant qu'il pouvait. La foule battait des mains et saluait les chevaux de ses applaudissements. Satan, qui avait conservé son avance, était blanc d'écume. Cela inquiéta quelques-uns de ses partisans. Mais cependant, il allait si franchement qu'ils n'osèrent pas se couvrir en pariant contre lui. Escamoteur avait fait de la rivière une première expérience qui l'en avait dégoûté. Au second tour, il refusa obstinément de passer. Il ne resta donc plus dans la course que les deux chevaux irlandais, ceux de Friardel et Nelombo. Si la vitesse augmentait, les chevaux irlandais, meilleurs comme sauteurs que comme coureurs, ne pourraient probablement pas continuer, et déjà ils donnaient des signes de fatigue. Elle augmenta. Nelombo, qui était resté attaché à l'une de miel, sans paraître se soucier de l'avance de ses concurrents, commença à s'étendre. L'une de miel, le sentant venir, avança aussi, et tous deux dépassèrent rapidement les Irlandais. La distance qui les séparait de Satan se trouva vite singulièrement diminuée. Il devint évident pour tout le monde que celui-ci faiblissait. À chaque pas en avant, il semblait dire « Je n'en peux plus. Encore 100 mètres, je les ferai. Plus je ne pourrai pas. Ce n'est pas le courage qui me manque, c'est la force. » Il fouettait l'air de sa queue et donnait des signes de détresse auxquels les gens du métier ne se trompent pas. 400 mètres seulement les séparent du poteau d'arrivée. À chaque foulée, il perd, tandis que Nelombo et l'une de miel gagnent. Une grande clameur s'élève dans la foule. « Satan est battu !» Les deux jeunes chevaux courant tête à tête, naseau contre naseau, botte contre botte, sont sur lui. La courageuse bête veut lutter encore. La force lui manque. Il est dépassé. L'une de miel est au fouet. Couchée sur l'encolure de sa jument, Forster la sangle de coups de cravache, tandis que de ses éperons il lui laboure le ventre. Sénéry, debout sur ses étriers, n'a pas encore bougé. Il se penche sur le garrot, tire la bride de la main gauche et de la droite lève sa cravache. Le cheval répond à son appel et allonge la tête. Nelombo ! Nelombo ! La lutte ne dure pas une seconde. Nelombo arrive le premier au poteau, gagnant facilement. La foule envahit la piste et applaudit avec enthousiasme. Dans les voitures, au contraire, il y a un mouvement de surprise silencieuse. Le favori est battu. On ne peut pas demander de la joie à ceux qui perdent leur argent. Mais le populaire, qui n'a rien risqué et qui est là pour son plaisir, pousse des hurrahs. C'est un cheval du pays qui a gagné. « Bravo, monsieur Sénéry !» On fait cortège à Nelombo, qui peut à peine s'ouvrir un passage. Cependant, dans l'enceinte du pesage, éclate une agitation bruyante. La défaillance inexplicable de Satan d'un côté, la persistance de l'une de miel de l'autre, ont éveillé les soupçons de ceux qui connaissent les roueries du turf. Soupçons que confirme encore l'état des deux chevaux. Satan est anéanti, vacillant sur ses jambes, ses yeux sont morts, l'écume mousse sur tout son corps. L'une de miel, presque sèche tant sa préparation a été sévère, est charcutée de coups d'éperon, cerclée de coups de cravache. Le sang qui coule de ses flancs dit combien vivement on voulait la faire gagner. On ne se gêne pas pour formuler tout haut les accusations. Si Friardel ne les entend pas, c'est qu'il se bouche les oreilles. Blême, les lèvres pincées, évitant les regards, il se dirige vers Dipréau. Mais celui-ci, en l'apercevant, lui épargne la moitié du chemin. « Mon cher baron, » dit-il à très haute voix, de manière à être entendu de tous ceux qui les entourent, « ne m'en veuillez pas. Je suis sûr que ces messieurs vous diront que pour un cheval malade, je n'ai pas trop mal monté. » À ces mots, qui dans leur ironie dégageaient sa responsabilité et disaient clairement qu'il ne voulait passer ni pour complice ni pour dupe de cette étrange défaite, des applaudissements éclatent de tous côtés et 30 mains se tendent vers lui. Friardel pâlit encore davantage.
« Malade ! Tous mes paris étaient sur lui !»«
Assurément, nous en sommes convaincus. Aussi, je vous réitère mes excuses. » Et lui tournant le dos avec une parfaite impertinence, il se dirige vers le kiosque du pesage, où il trouve Sénéry assis sur le fauteuil pour faire vérifier son poids. Là aussi, les commentaires sur la course de Satan allaient leur train. Et toujours les mêmes récriminations revenaient, nettes et précises. Dipréau perça le rang des curieux et, prenant la main de Sénéry, « Les compliments du vaincu au vainqueur, » dit-il cordialement, « tu as fait l'arrivée la plus fine et la plus juste qu'on puisse voir. » « La course de ton cheval est encore bien plus juste, » dit Sénéry en souriant. Et surtout bien plus fine. » Friardel, qui venait de s'approcher, entendit ces derniers mots. Il était dans une de ces situations où l'exaspération fait oublier toute prudence. Les premières accusations, il avait faim de ne pas les comprendre. Mais il était à bout. Et d'ailleurs, sa haine contre Sénéry l'emporta.
« Savez-vous ce que vous voulez dire ? »
fit-il en s'avançant pour se placer en face de son beau-frère. Sénéry le regarda un moment, puis d'une voix basse. « Vous êtes le mari de ma sœur. Je suis plus honteux de votre défaite que joyeux de ma victoire. » Bien que prononcées d'une voix sourde, ces paroles furent entendues des quelques personnes qui entouraient les deux beaux-frères. Il se fit un moment de silence, qui rendit la situation plus difficile encore. Mais Dipréau, qui avait tout son sang-froid, passa son bras sous celui de Sénéry et l'emmena à l'écart avant que Friardet lui répliqué.
« Tu savais donc que Satan était drogué ? » dit-il.
Sénéry lui raconta comment il en avait été informé.
« Pas tué, pas déshonoré, » fit Dipréau en riant. « Ni mort, ni filou. « Décidément, j'ai une fameuse chance. »«
Allons rejoindre Cyprienne, » dit Sénéry. « À ce propos, j'ai un service à te demander. Tu sais que je n'ai pas pu me marier parce que mon père m'a refusé obstinément son consentement. Dans quelques jours, je toucherai à ma majorité de 25 ans et pourrai lui faire les sommations légales. Promets-moi d'être témoin de mon mariage. »«
Alors, c'est un amour sérieux ?»
« Comment, sérieux ? Mais je suis l'homme le plus heureux du monde !»«
Au fond des bois, après 3 ans ? Quel gaillard ! Il est donc dit qu'en tout et partout, tu nous humilieras !»«
Tu me plains, et chose étrange, je te plains aussi. Tu trouves ma vie vide ?
Justement, c'est ce que je pense de la tienne. Enfin, ne discutons pas là-dessus. Ce qu'il y a de certain, c'est que pour moi, je suis heureux. Je ne te cache pas que dans les premières années, nous avons eu des ennuis d'argent. Mais cela est fini. Sur la course d'aujourd'hui, je gagne 100 000 francs. Le jour de mon mariage, j'en toucherai près de 400 000. L'avenir est donc à nous. C'est dit, n'est-ce pas ? Dans 4 mois, je compte sur toi. »
Dans 4 mois.
Chapitre 7. Le lendemain matin, Cyprienne assistait au premier déjeuner de son fils lorsqu'on vint la prévenir qu'une espèce de monsieur demandait monsieur des Turquerets. Dans le vestibule, elle trouva ce monsieur, qui était un grand homme extrêmement long, extrêmement maigre, extrêmement pâle. Il salua jusqu'à terre, et ses bras, ses jambes et son torse se plièrent avec les mouvements d'un faucheux. « Vous désirez voir monsieur des Turquerets ?» dit-elle en faisant entrer ce singulier personnage qui ressemblait prodigieusement à Pierrot en habit noir. Il s'inclina de nouveau, se frotta la tête des deux mains, ouvrit la bouche jusqu'aux oreilles
et de cette bouche sortit une petite voix de ventriloque qui répondit
« Oui, madame, si je ne le dérange pas trop. Sans quoi, puis-je très bien vous remettre ce dont il s'agit, à savoir quelques petites significations et une sommation ?»
Il dit cela tout courbé, comme s'il tirait péniblement ses paroles du plus profond de ses entrailles. Puis il se releva avec la rapidité d'un bon ressort qui se déclique, son travail fini. Bien que de nature sérieuse, Cyprienne fut prise d'une folle envie de rire.
« Monsieur des Turquerets est très fatigué de la journée d'hier, » dit-elle. « Cependant, si vous voulez me donner votre nom... »
« Espérant Dieu, madame, huissier à Condé-le-Châtel, y demeurant rue du Pont. Mais inutile de troubler son repos, peut très bien laisser entre vos mains les dites significations et sommations. »
Son grand bras s'engouffra dans la poche de son habit et il en tira une liasse de papier. Puis, ayant débouché une petite bouteille d'encre suspendue à une boutonnière de son gilet, il se recourba pour écrire sur son genou.
« Parlant à la personne de qui, s'il vous plaît ?» demanda-t-il.
« Madame des Turquerets. »
La déclic du ressort se défit, et il se redressa, la bouche ouverte, les yeux écarquillés.
« Pardon, je demandais vos noms et qualités. »
La figure de Cyprienne s'empourpra, et elle baissa les yeux. Comme elle les relevait, elle aperçut par la fenêtre ouverte Éloïe qui se promenait dans le jardin.
« Monsieur Éloïe, » dit-elle.
Cet appel était si pressant, la voici inquiète, qu'il accourut.
« C'est un monsieur, » dit-elle en allant vers la fenêtre, « un huissier. »«
Espérant Dieu, huissier à Condé-le-Châtel, » dit l'homme au ressort, répétant son refrain, « pour signification de quelques pièces de procédure. »
Éloïe tendit vivement la main.
« Comment remplir le « parlant à » ?» dit l'huissier sans se dessaisir de ses papiers.
« Une personne à son service. »«
Pardon, mais ne vois ici personne au service de monsieur des Turquerets. »
D'un air narquois, il se frotta la tête comme s'il la brossait.
« Veuillez appeler un domestique, » dit Éloïe à Cyprienne. Puis se tournant vers l'huissier, « Je suis avoué près le tribunal de la Seine. » « Je vous avertis de cesser ces grimaces. »«
Pardon ? Vous savez, formalité ?»
Puis après avoir écrit quelques mots, il tendit sa liasse à Éloïe et saluant jusqu'à terre, il sortit.
« Eh bien, » dit Cyprienne en revenant vers l'avoué qui feuilletait les papiers, « qu'est-ce donc ? Ce n'est pas grave, n'est-ce pas ?»
Éloïe resta quelques secondes sans répondre, tournant rapidement les feuillets.
Vous êtes une femme de courage,
fit-il en relevant les yeux et en la regardant en face.
Mon Dieu!
Il faut garder tout votre calme, votre force, non seulement pour vous, mais pour lui.
Mais qu'est-ce donc?
Une infamie dont vous triompherez, mais qui va vous causer de terribles tourments. On veut interdire Sénéry.
« L'interdire ?»«
On l'accuse d'être fou. »«
Lui ? Fou ?»
La porte s'ouvrit et Sénéry entra, marchant lentement, les yeux encore ensommeillés. D'un bond, elle fut près de lui et se jeta dans ses bras. Il la regarda en souriant, mais à sa figure décomposée, à son tremblement, à l'air sombre des Louis, il comprit qu'il se passait quelque chose de grave.
« Je vais près de vous, » dit l'avoué, toujours dans le jardin, répondant à sa muette interrogation.
Quittant la fenêtre sur laquelle il était appuyé, il entra dans la maison.
« Que se passe-t-il donc ? » demanda Sénéry.
Avant de répondre, Éloïe alla fermer la fenêtre, puis, revenant la liasse de papier à la main,
« En arrivant ici, » dit-il, « je t'ai laissé croire que je te rendais tout simplement une visite d'amitié. Ce n'était pas absolument vrai. Quelques jours avant mon départ de Paris,
J'avais rencontré ton beau-frère, Friardel, chez Dupréau.
Tu me l'as dit ?
Oui, mais je ne t'ai pas dit que de notre entretien, il m'avait semblé résulter qu'un danger te menaçait.
Un danger ? Quel danger ?
Un danger que j'espérais conjurer en venant ici, mais contre lequel maintenant je ne peux plus que te défendre.
Tu me fais mourir avec ces précautions. Explique-toi, je ne suis pas un enfant.
Mon ami, essaya doucement Cyprienne. Voyons ces papiers.
Les voici. La première pièce est une requête présentée au président du tribunal par ton père pour demander qu'il soit rendu contre toi un jugement d'interdiction.
M'interdire ?
Attendu ton état habituel de démence et de fureur, dit la requête.
J'ai vu mon père il n'y a pas 8 jours. Il a été avec moi comme à l'ordinaire.
La seconde pièce est un avis de ton conseil de famille, disant qu'il y a lieu de poursuivre l'interdiction. Enfin, la troisième est un jugement, ordonnant que tu devras comparaître demain en la chambre du conseil pour y être interrogé.
Voyons, voyons, dit Sénéry en balbutiant. C'est impossible, n'est-ce pas ? Mon père, qui au vu et au su de tout le monde, est pour ainsi dire en enfance, ne peut pas demander mon interdiction.
Ton père n'est pour rien là-dedans. Il agit parce que, au terme de l'article 490, l'interdiction ne peut être provoquée que par un parent, et que ton beau-frère n'est que ton allié. Mais tu dois bien sentir que le coup vient de Friardel seul, qui par ce moyen espère empêcher ton mariage.
Il y eut un moment de silence. Cyprienne et Sénéry échangèrent un long regard.
« Franchement, ton avis, dit Sénéry, ce procès peut-il réussir ?»«
Si quelqu'un est assuré de vivre demain, c'est ce grand gaillard de jardinier qui passe là-bas, n'est-ce pas ?»
Cependant, il peut mourir avant ce soir.
Si fort que soit ton droit, tu peux succomber. C'est là le sort de tous les procès.
Je serai déclaré fou ?
Il repoussa Cyprienne et marcha vers la porte. Le sang lui jaillissait des yeux. Les veines de son cou étaient gonflées à crever. Elle courut à lui.
Où vas-tu ?
De la main qui restait libre, il ouvrit la porte. Elle se cramponna à son bras.
C'est comme cela, s'écria l'avoué, et comme cela seulement que ton affaire peut être perdue. Mais enfin, tu vois qu'elle peut l'être. Qu'un juge, qu'un étranger soit témoin de cet emportement, n'admettra-t-il pas la fureur? Tu veux tordre le cou à Friardel? Eh bien, après. D'abord, on ne tord jamais tout à fait le cou aux gens, et le lendemain, vous êtes coffré dans une prison ou dans une maison de fous. « Ferme cette porte et causons sérieusement. As-tu confiance en moi ?»«
En toi, oui, mais je n'ai confiance ni dans la loi ni dans la justice. Comment puis-je avoir confiance quand je vois qu'un procès aussi absurde est possible ? Il passe par l'idée d'un misérable de dire que je suis fou, et tout de suite la loi met son arsenal à sa disposition. Moi qui n'ai rien fait, me voilà accusé, traqué, forcé de me défendre comme si j'avais commis un crime. » À qui la loi est-elle favorable ? À l'honnête homme ou au gredin ? À l'innocent ou au coupable ?
Il est certain qu'on peut toujours intenter un mauvais procès, mais pour celui qui le commence, il y a à la fin une pénalité.
Mais qui me dit ce que sera cette fin, quand je vois ce qui a été le commencement ? Ainsi voici des requêtes, des jugements qui ont été rendus contre moi, et je n'en ai rien su ? Qui me dit que la loi ne va pas permettre qu'on m'enferme dans une maison de fous sans que j'aie été davantage appelée à me défendre ?
Oh, oh ! Enfin, voyons les différentes mesures qui ont été prises contre moi. Et voyons aussi comment jusqu'à présent la loi m'a protégée.
Il y a eu requête, présentée au président du tribunal par ton père. Ordonnance du président portant que la requête serait communiquée au procureur impérial et commettant un juge pour faire un rapport. Sur ce rapport et les conclusions du procureur impérial, ordonnance du tribunal pour obtenir l'avis de ton conseil de famille. Réunion et délibération de ce conseil, jugement du tribunal décidant que tu serais interrogé dans la chambre du conseil.
« Tout cela arrière de moi, dans le plus grand secret ? Ni le président, ni le procureur impérial, ni le juge de paix, aucun de ceux entre les mains desquels la loi numée, ne m'a prévenu. J'arrive à la veille du jugement sans rien savoir. Est-ce que si j'avais été appelé devant le président, il eût rendu son ordonnance ? Si le procureur impérial m'avait entendu, aurait-il conclu qu'il y avait lieu à convoquer mon conseil de famille ? Si j'avais comparu devant ce conseil, si j'avais été interrogée, est-ce qu'il eût donné un avis favorable à mon interdiction ? Où vois-tu dans tout cela la protection de la loi ? Ne m'a-t-elle pas livrée au contraire à mes ennemis ? Ils ont eu le temps de préparer leurs attaques. Mais quand tout est disposé de leur côté, la loi me dit à l'improviste « Tu te défendras demain. Tes ennemis ont pris le temps qui leur a été nécessaire et toi, nous te donnons 24 heures. »
La loi est la loi, nous n'avons pas à la discuter, mais à la subir.
C'est bien de cela que je me plains.
Parfaitement, mais dans l'état des choses, il est temps encore d'organiser notre défense. Je ne te demande que de la modération. Si mystérieusement, si habilement que l'affaire ait été conduite, nous en sortirons. Si tu peux ne pas te laisser emporter par la colère.
Tu en parles à ton aise.
Non, je comprends les sentiments d'indignation qui bouillonnent en toi. Mais comme la colère peut nous perdre et que le calme doit nous sauver, je tâche de te calmer.
Enfin, sur quoi s'appuie cette demande d'interdiction ?
C'est justement ce qu'explique la requête.
Eh bien, lisons-la.